Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, un mémorandum d'entente a été signé mercredi dernier à Kindu entre la République unie de la Tanzanie et la province du Maniema. Cet accord concerne la construction d'une barge de 500 tonnes, d'un bateau pousseur destiné au service de transport par voie navigable intérieure entre Kindu et Ubundu dans la province de la Tchopo. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, tire la sonnette d'alarme sur les menaces que l'épidémie d'Ebola fait peser sur les services de santé essentiels en Ituri, avec notamment comme illustration au Nord Kivu voisin, où la fréquentation des patients est en baisse criante au centre d'isolement d'Ebola à l'hôpital général de référence de Kibirizi. Notre invité, le docteur Léon Kinoani, expert en santé publique, face au danger de contamination de la maladie à virus Ebola à Kinshasa, il appelle plutôt au respect des mesures universelles d'hygiène pour prévenir cette épidémie. Mesdames, Messieurs, bonjour. La province du Maniema tend petit à petit vers son désenclavement. Pour preuve, un mémorandum d'entente a été signé mercredi dernier à Kindu, dans ce sens entre la République unie de la Tanzanie et cette province. Cet accord concerne la construction d'une barge de 500 tonnes, d'un bateau pousseur destiné au service de transport par voie navigable intérieure entre Kindu et Ubundu, dans la province de la Tchopo. Ces engagements entrent dans le cadre du renforcement des liens commerciaux entre la Tanzanie et la province du Maniema. Florence Kizalunga, reportage.
La construction de cette barge et pousseur est entièrement financée par les corridors centrales à hauteur de 450 000 dollars américains. Son secrétaire exécutif se félicite d'avoir répondu aux exigences d'un des pays membres du corridor central, Flori Okanju.
C'est l'aboutissement heureux d'un processus qui a commencé depuis Kindu et qui a atteint sa maturité à Dar es Salaam lors de la visite de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Pour nous, nous sommes contents. Je n'envisage pas l'échec. Nous croyons que nous aboutirons. Nous attendrons recevoir de la province les termes de référence pour la passation des marchés et nous allons suivre ça régulièrement et nous croyons que avant la fin du premier semestre 2027, nous serons en mesure de vous appeler pour la séance inaugurale.
Pour le gouverneur Moussa Kabwankubi, c'est un grand jour pour le désenclavement de sa province.
Très content, nous venons de signer le mémorandum d'entente. Ces outils vont jouer un rôle important pour le désenclavement de la province dès lors qu'ils vont desservir les tronçons Kindu-Ubundu. Le décollage de la province requiert beaucoup de choses, mais cette barge va jouer un rôle important dans le désenclavement de la province.
Signalons que la signature de ce mémorandum s'est faite en présence de l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC, Kindu. Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis c'est ouf de soulagement pour la population de Kamina dans les Olomami. L'eau coule des robinets après près de 50 ans d'interruption. Cela grâce à la mise en service de l'usine de captage et de traitement d'eau de l'Ovoy. En tout cas, l'eau potable de la régie des eaux coule dans la quasi-totalité des quartiers de ces coins de l'ex-Katanga. Plus question pour les habitants de parcourir plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau. D'où la joie de ces habitants. Le point avec Paul Mounanga.
Le projet de construction de l'usine de l'Ovoy débute en 2017 sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT dans le cadre du contrat sino-congolais. Les travaux prévus pour 2 ans ont pris plusieurs années. Et c'est finalement en août 2026 que l'usine de captage et de traitement d'eau de l'Ovoy est devenue opérationnelle à la grande satisfaction de la population. Une habitante de Kamina s'exprime. Nous avons beaucoup souffert pour avoir de l'eau, surtout pendant la saison sèche. Nous remercions les président de la République pour avoir donné de l'eau partout, même dans la cité. Nous ne souffrons plus avec des bidons sur la tête à la recherche de l'eau. Pour le directeur régional de la régie des eaux dans le Grand Katanga, l'usine de l'Ovoy a la capacité de desservir toute la ville de Kamina en eau potable. David Angoyo.
C'est une nouvelle usine qui a comme capacité de production journalière d'eau potable de 7000 mètres cubes qui est très significative par rapport à la ville de Kamina. Kamina traverse une crise hydrique sans pareil de près d'un demi-siècle. L'usine de l'Ovoy est à mesure de donner de l'eau à tout Kamina.
Face aux difficultés d'accès à l'eau potable, la population faisait recours à l'eau des pluies, des rivières et des puits forêts. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Bientôt, le démarrage des travaux de construction du nouvel institut de formation au métier de l'enseignement en Mbandaka. Avec le lancement des travaux de l'IFME, un atelier de restitution s'est tenu mercredi dernier pour valider le plan de gestion des impacts environnementaux et sociaux du chantier. Askin Zigbia Tayoro nous en dit plus.
Un bâtiment moderne sortira bientôt des terres au village Bolombo à plus de 5 km d'Mbandaka. D'un coût de 5 millions de dollars, le projet est prévu pour durer 18 mois. Mais avant le début de travaux, la réglementation nationale et les exigences de la Banque mondiale imposent une évaluation rigoureuse. Le mercredi, le consultant Jean Trésor Nzali a donc présenté à 40 participants représentants de l'éducation, sociétés civiles, médias locaux ou encore chefs de division provinciale, les mesures pour prévenir et atténuer les risques environnementaux et sociaux sur les sites. À l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées. Les participants insistent sur la sensibilisation des communautés locales et l'implication de tous les acteurs avant, pendant et après le chantier. Ce programme s'inscrit dans le projet EFICACE, une initiative du gouvernement congolais financée par l'Agence française de développement et la Banque mondiale qui vise notamment à promouvoir l'éducation des jeunes filles et à revaloriser les métiers d'enseignants en RDC.
Direction Congo Central, à présent, les spécialistes de l'environnement alertent sur l'urgence de maîtriser la tête d'érosion de Kengeyaba, communément appelée Libulu à Kisimbi. Entendez par là, ravin mystérieux situé à Mwanda. En progression depuis plus de 20 ans, ce ravin menace des habitations, des infrastructures ainsi que les populations riveraines. À l'approche de la saison des pluies, les experts redoutent une aggravation de la situation et appellent à des interventions rapides afin de limiter les dégâts. Élise Kavira pour plus de détails.
Chaque année, le ravin de Kengeyaba continue de s'étendre, alimentant les inquiétudes des habitants face au risque de nouveaux dégâts pendant la prochaine saison pluvieuse. Pour Honoré Boana Bokili, spécialiste de l'environnement, des mesures urgentes doivent être prises afin de protéger les populations et les infrastructures exposées.
Cette érosion causée des destructions des maisons d'habitation, faisant fuir plusieurs dizaines de ménages en période de pluie. Nous nous approchons de la saison des pluies. Si on ne prend garde, les érosions risquent de renaître à certains endroits et on reviendrait à la case du départ.
Contacté à ce sujet, l'administrateur du territoire, assistant chargé de l'économie, des finances et du développement à Mwanda, Christophe Bietoun Tamboué, rappelle que les dégâts observés dans certaines parties de la cité ne sont pas uniquement dus à l'érosion. Il résulte également des mauvaises pratiques consistant à jeter des déchets dans les caniveaux, obstruant ainsi l'écoulement normal des eaux des pluies. L'autorité territoriale appelle donc chaque citoyen à adopter un comportement responsable afin de préserver l'environnement, protéger la santé publique et réduire les risques d'inondation et d'érosion. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Autre actualité, la zone de santé de Bounia demeure le principal foyer d'Ebola en province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. À son actif, 950 cas confirmés et 289 décès, selon le rapport du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Il note aussi que les zones de santé de Rwampara, Mongwalou et Nizi figurent également parmi les plus touchées. Reportage de Lévin Bouinga rendu par Magloire Landou.
Selon ce document, la majorité de nouvelles contaminations provient des zones de santé de Bounia, dont 25 cas, Nizi 21 et Rwampara 18 cas. Des cas ont également été signalés à Lita, dont 9, Fataki 5 cas, Mongwalou 5 cas et Mangala 2 cas. Notez aussi qu'au cours de ces dernières 24 heures, a précisé encore la source, 85 nouveaux cas ont été notifiés dans la province de l'Ituri, tandis que 47 décès confirmés ont été enregistrés, dont 35 survenus dans la communauté et 12 dans les centres de traitement Ebola. L'Ituri enregistre un cumul de 3460 cas confirmés et 1464 décès, soit un taux de létalité de 42,3%. La province concentre 87,1% des cas confirmés et 81,3% des décès rapportés à l'échelle nationale, a souligné le rapport. Les zones de santé des Rwampara, 692 cas, Mongwalou, 558 cas et Nizi, 431 cas, figurent également parmi les plus touchés, a-t-on lu dans les rapports des 7 structures du ministère de la Santé, puis centre de l'épidémie dans la province.
Notez aussi que la perturbation des services et une crainte de l'infection entraînent une baisse de plus de 40% de la vaccination des enfants et des accouchements en établissement de santé. C'est alors que plus de 300 enfants sont décédés d'Ebola. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur cette épidémie en Ituri. Les fonds des Nations Unies pour l'enfance alertent aussi sur les menaces que l'épidémie fait peser sur les services de santé essentiels. Le point avec Joyce Masanka.
Des nouvelles données sanitaires recueillies dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo montrent une forte diminution ayant recueilli aux services de santé essentiels, notamment la vaccination des enfants, les accouchements dans les structures de santé, alors que la crainte de l'infection et la perturbation des services, l'utilisation des services de santé essentiels a diminué de 42% dans les principaux foyers de l'épidémie, à savoir Bunia, Mongwalu, Nizi et Ouapara. Dans l'ensemble de la province de l'Ituri, les recours aux services a diminué d'environ 13%, indique l'agence de l'ONU. Les données suggèrent que la crainte de l'infection combinée aux perturbations des services dissuade de nombreux enfants et leurs familles de se faire soigner, a déclaré John Agbor, représentant de l'UNICEF en RDC. La vaccination des routines des enfants a diminué de plus de moitié dans les zones les plus touchées, notamment avec une baisse de 69% de l'administration de la première dose du vaccin contre la rougeole à Mongwalu, l'épicentre de l'épidémie. Les accouchements assistés dans les établissements de santé ont diminué de 13% dans l'ensemble de la province et de 38%, 30% et 70%. Premières consultations prénatales ont chuté d'environ 28% dans ces trois zones.
Une illustration éloquente de cette situation est le centre d'isolement Ebola à l'hôpital général des références de Kibirizi, où la fréquentation des patients est en nette baisse. Et pour cause, de nombreux habitants craignent d'être placés en isolement dès leur arrivée à l'hôpital, indique l'infirmier superviseur de la zone de santé de Kibirizi. Une situation observée depuis l'installation de ce centre en territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. C'est pourquoi Jérémy Malimingi appelle la population à ne pas garder les malades à domicile et rappelle que cette unité a été créée pour prévenir la propagation du virus Ebola. Il est au micro de Bernardine Diambou.
Alors, chers compatriotes, habitants de la zone de santé de Kibirizi, ne retardez pas d'amener les patients à l'HGR par peur d'être forcés à entrer à l'isolement. Car un retard de prise en charge peut aggraver la maladie. L'isolement n'est pas un mouroir, mais l'isolement sauve des vies. Il permet de soigner les malades dans les meilleures conditions, tout en protégeant leurs proches et la communauté entière. La construction d'une unité d'isolement à l'HGR Kibirizi ne signifie pas que c'est vraiment l'hôpital qui est devenu dangereux. Au contraire, elle renforce la sécurité de tous. Nous invitons tous les habitants de la zone de santé de Kibirizi à continuer à fréquenter l'hôpital général de Kibirizi. Vous serez soignés comme d'habitude. Vous ne serez pas entré à l'isolement par complaisance, mais il faudra une évaluation. Ne craignez pas les thermoflashs, c'est juste pour prélever la température.
Les vacances, vous allez le constater, ne riment toujours pas avec le repos. Et l'exemple nous provient du Kasaï central. Plusieurs structures mises sur la formation sur place. Au programme, l'anglais et l'informatique, deux compétences devenues indispensables. Et les cours sont offerts gratuitement par le conseil communal des jeunes de la commune de Katoka, en vue d'occuper utilement les enfants et les jeunes, tout en préparant leur avenir. Le point avec André Katendengala Mouloumé.
Dans cette salle de l'Epichisumbu, les apprenants répètent les mots en anglais. Dans une autre, ils découvrent les bases de l'informatique. Le conseil communal des jeunes de Katoka organise cette formation gratuitement. Pendant plusieurs semaines, des dizaines d'enfants et jeunes apprennent à utiliser un ordinateur et à communiquer en anglais. Pour Félicien Nalamouloumé, président communal, ces deux disciplines sont devenues essentielles. Elles permettent aux jeunes de mieux préparer leur parcours scolaire et de développer de nouvelles compétences.
Nous avons tablé sur l'anglais, l'informatique, parce que ce sont les deux matières qui sont indispensables pour la vie de l'homme actuellement. Avec la mondialisation,
les participants, eux, se disent heureux de profiter de cette opportunité. Beaucoup découvrent l'informatique pour la première fois. D'autres rêvent déjà de parler couramment l'anglais. C'est le cas de David Kayembe.
Ce qui m'a plus motivé, c'est de me voir aussi parler la langue anglaise.
Les parents saluent cette initiative. Ils estiment que ces cours occupent utilement leurs enfants pendant les vacances. Ils les éloignent aussi des mauvaises fréquentations. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Bénin, Patrice Talon a été élu hier jeudi à Porto Novo, président du Sénat, moins de 3 mois après son départ du pouvoir. Le Sénat béninois a en même temps élu son bureau et c'est sans surprise, l'ancien chef de l'État Patrice Talon a été désigné président de cette chambre, cette deuxième chambre du Parlement, pour un mandat de 5 ans. Il revient aussi sur la scène politique moins de 3 mois après son départ du pouvoir. Seul candidat à la présidence de l'institution, Patrice Talon a obtenu 24 voix sur 25 contre un bulletin blanc et aucune voix contre. Résultat qui traduit un désir d'unanimité autour du bureau selon un sénateur.
L'invité.
Il s'agit du docteur Léon Kinoani, expert en santé publique. Face au danger de contamination de la maladie à virus Ebola à Kinshasa, il appelle plutôt au respect des mesures universelles d'hygiène pour prévenir cette épidémie. Ce doyen de la faculté de santé publique à l'université Simon Kimbangu, USK, plaide également pour l'installation des experts en santé publique dans les bureaux territoriaux et communaux pour prévenir des cas de maladie. Docteur Léon Kinoani s'entretient exclusivement avec Blaise Dongala Mayanda.
Bonjour, docteur Léon Kinoani. Quelle est l'importance de la santé publique dans une mégalopole de plus de 20 millions d'habitants comme Kinshasa?
La santé publique est née au décours du travail. Donc, son essence, c'est que on veut absolument prévenir les maladies là où les gens habitent. Promouvoir la santé le plus tôt possible de leur résidence. Et là, malheureusement, dans notre pays, les gens ne savent pas sur quel levier est touché. Comment faire? Et si vous regardez, de là de 80% qui amène les gens à consulter les services de santé, c'est parce qu'il y a une panne au niveau de la santé publique, au niveau de la prévention. Toutes les maladies, vous allez avec moi aller dans des hôpitaux aujourd'hui, vous verrez, c'est archi-comble. Et ça coûte aussi cher. Mais si les gens avaient des experts qui peuvent les accompagner pour adopter des comportements favorables à la santé, on allait réduire énormément les arrivées au niveau. Donc, on a besoin des experts de santé publique qui doivent accompagner des communautés pour que celles-ci comprennent sur quels leviers il faut jouer, quels sont les facteurs, les déterminants de santé sur lesquels il faut s'agripper, essayer de prendre pour éviter que les gens tombent malades des choses évitables. C'est sûr.
Quelle est la part de la population dans la prévention des maladies, des épidémies, plus précisément dans la ville de Kinshasa?
Leur part, c'est la responsabilité. D'abord, ils sont au centre, ils ont une grande responsabilité. La population doit écouter, doit suivre les conseils que nous, les experts, donnons pour que leur état de santé s'améliore toujours et pour toujours. Par exemple, je vous donne un exemple. Allez dans les communes aujourd'hui. Les communes, nous avons 24 communes à Kinshasa. Il n'y a aucun expert de santé publique qui doit être comme des conseillers du bourgmestre. Il n'y en a pas. Nous, notre idée, c'est qu'on puisse, ces gens qui terminent, on doit les avoir à côté des territoriaux. Ils doivent les accompagner. Quoi faire pour que la santé de la population puisse être maintenue, puisse s'améliorer et puisse être restaurée? Si nous réussissons cette trilogie-là, nous aurons réussi quelque chose dans la communauté. Les gens, parfois, peuvent être fatigués. Vous devez avoir à côté des experts qui doivent tout le temps vous pousser pour dire « Attention, ne dormez pas assez parce qu'il y a telle chose qu'il faut faire. » Et si nous réussissons notre projet dans la ville de Kinshasa, à long terme, c'est d'avoir suffisamment des experts de santé publique au niveau des communes, au niveau des quartiers, au niveau de la ville, au niveau des sociétés. Ces experts vont aider, vont permettre à ce que les gens comprennent finalement pourquoi notre santé se détériore.
Quel est le message que vous lancerez à ces moments à toute la population de la capitale?
Rien que l'hygiène alimentaire vous prévient à éviter un certain nombre de maladies. Pour celui qui se comporte bien, c'est-à-dire qui ne mange pas tout ce qui lui tombe entre les mains, c'est déjà bien. Celui qui ne doit pas manger sans se laver les mains. Les mains, on se lave autant de fois par jour. Quand vous avez serré les mains, il faut nettoyer. Parce que ces microbes-là, ces virus, ne se transmettent pas comme une génération spontanée. Il faut que vous ayez un contact étroit avec des facteurs de risque. Si vous évitez les facteurs de risque, et dans les facteurs de risque, par ordre, de manière très précise, numéro 1, ne touchez pas à la viande trouvée morte, ou bien qu'on vous a donnée comme ça, sans que vous sachiez elle vient d'où. Numéro 2, vous pouvez saluer les gens, mais il faut toujours se laver les mains. Il faut se laver régulièrement les mains. Numéro 3, si vous avez été à l'hôpital, il faut savoir aussi qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de microbes. Vous avez été dans une société, vous avez été dans un bus. Ces brassages-là sont source de maladies. Donc, il faut, quand vous rentrez chez vous, utiliser, adopter les mesures universelles d'hygiène.
Merci, docteur, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci, monsieur Jumel.
Notre invité était le docteur Léon Kinoani, doyen de la faculté de santé publique à l'université Simon Kimbangu. Il s'entretenait en exclusivité avec Blaise Ndongala Mayanda. Fin de ce journal qui a été mis en onde par Jean-Claude Siala. Infiniment merci à vous de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.